Avec Mémoire du Couseran, ce dimanche matin, nous allons avoir les pieds dans l'eau. Raymond Gabart, bonjour, mais que d'eau, que d'eau, que d'eau.
Eh bien oui, alors on va, cette semaine, je vais vous parler, parce que quand même, ça avait quand même interpellé ceux qui l'ont vécu, c'est les grandes inondations donc, de l'année 1952, voilà. Alors c'est vrai qu'avec ou sans dérèglement climatique, le Couseran, au cours des siècles, a subi quand même de multiples intempéries, plus ou moins importantes. Et c'est ainsi donc que je vais évoquer cette semaine, donc, disons, la dernière inondation que beaucoup d'entre nous ont connue, à savoir c'est celle de 1982, et qui avait fait quand même d'importants dégâts. Alors, bien entendu, je vais ajouter que je ne compte plus mes fidèles auditeurs, à qui, bien sûr, je donne bonjour, et puis aux autres aussi. Et alors, remontons ensemble le courant de nos rivières, parfois capricieuses, comme avait dit un jour un sage paysan, il y a beaucoup de sages paysans de nos montagnes, donc, couseranaises, il faut laisser faire la nature, voilà. Peut-être qu'il faudrait y repenser à ça. Voilà. En reconnaissant d'ailleurs que cette dernière prend toujours le dessus. Oui, dame nature mène toujours dans le monde. Et les raisonnements des uns, les analyses des autres, l'inconscience et surtout l'égoïsme de la plupart, eh bien, je reconnais quand même que parmi donc, ces personnes, qui n'ont rien changé, et c'est difficile de changer quand même quelque chose, voilà. Et alors, maintenant, donc, en ce moment, quand même, il faut dire quand même que l'eau, c'est quand même une richesse, hein, et le soleil, l'eau, c'est une richesse, mais parfois, quand même, trop d'eau, c'est trop. Et cela peut virer au cauchemar avec les inondations, parfois désastreuses. Et le Couseran, quand même, en a connu pas mal. Et je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, dû, on peut le reconnaître aussi, à ces aléas climatiques. Alors, souvenez-vous, près de nous, oui, de celle de l'an dernier, du début d'année, et avec des pluies torrentielles, donc, de janvier 2022, mais qui très rapidement ont grossi les cours d'eau. À Saint-Giron, de pas mal de quartiers, dont riveraines de Salade sont submergés, et le quai du Gravier, oui, toujours la place à la rue Villefranche, la place des Capots. Et c'est vrai que même l'eau passait par-dessus les tabliers du Pont Vieux et du Pont Neuf, et comme à chaque fois, et donc qui avait été coupé forcément. Heureusement quand même que la décrue fut relativement rapide. Par contre, et c'est le sujet d'aujourd'hui, celle qu'on a pu connaître, cette crue, voilà un peu plus de 40 ans, et c'était très précisément en novembre 1982, tout comme celle de 1977 d'ailleurs, qui furent particulièrement violentes et j'ajouterai même traumatisantes. Alors, je rappelle, un bref rappel de ces grandes inondations dont j'ai parlé. Il y en a eu en 1703, 1712, 1768 et 1775, de loin, de très loin, même la plus importante. Mais rappelons aussi celle de 1926, 1844, pardon, 1904, 1906 et 1937. Alors 1937, parce que ça a été la plus meurtrière, la rivière du Salate, devenue torrent déchaîné, alimenté par des ruisseaux, et ce qui a fait suite aussi à d'importantes précipitations, donc, va se transformer en torrent tumultueux qui va dévaster absolument tout sur son passage et détruisant en outre une partie du petit village de Salo, en Haut-Couseran, dont j'ai parlé déjà la semaine dernière, et en 1937 détruisant énormément de maisons, dont la maison natale de mon père. Et c'est peut-être d'ailleurs tout cela qui fait que depuis plusieurs décennies, fait pas mal de décennies même, je me suis intéressé plus particulièrement à ce petit village du bout du monde et au fin fond de la France, devenu, j'ajoute, par la bêtise humaine, l'égoïsme surtout, le cul-de-sac de l'Europe. Il faut le dire et le redire, voilà. Et alors, moi j'ai souvent parlé de ça, parce que c'est quand même une autre histoire, hein, mais c'est bon de le rappeler, puis un beau jour, je développerai d'autres sujets de salaud. Voilà ce bref récapitulatif des intempéries connues, qui ont à des périodes différentes, et sur pratiquement 3 siècles, touché le Couserans. Et ainsi aujourd'hui, je vais évoquer donc la dernière grande, plus importante, disons, que beaucoup parmi vous ont connue, ont vécu, je l'ajouterai, de près ou de loin, et dont on se souvient. Alors c'était en début novembre 1982. Des intempéries vont toucher tout le Grand Sud-Ouest, et plus particulièrement les Pyrénées. Alors des giboulées, rafales de vent, et surtout des pluies diluviennes, et ainsi, le département de l'Ariège, surtout la Haute-Ariège et le Haut-Couserans, donc, vont se trouver pris d'entre une perturbation qui est en provenance de l'Atlantique et des vents chauds chargés d'humidité, donc, venant de la Méditerranée. Et ces deux flux contradictoires va s'en suivre une perturbation donc, qui va donner des précipitations très très importantes. Alors pratiquement toute la chaîne des Pyrénées donc sera touchée avec un pic quand même, comme je viens de le dire, sur l'Ariège et l'Andorre. Et malgré la vigilance et les analyses des stations thermales de la météo, notamment de Saint-Girons-Antichamps, ce phénomène va surprendre tout le monde, notamment les divers organismes donc, intéressés qui ne purent anticiper. Et alors tout a commencé dans l'après-midi du samedi 6 novembre, sans que cela alerte. Par contre, vers le milieu de la nuit, donc c'était la nuit du samedi au dimanche, la situation va s'aggraver brusquement. La montée subite des eaux inquiète les riverains de l'Allet et du Salat, des villages d'Ustou, de Seix également, qui vont alerter téléphoniquement dont les autorités, maires, pompiers, gendarmerie. Et nous voilà le dimanche 8, et déjà, à milieu de matinée, la situation est critique. Au lieu dit pont de l'Atoll, au niveau de l'église de Couflens, les fortes rafales de vent ont déjà détérioré les lignes téléphoniques et électriques par endroits. Il est 10h30 environ, on signale que le ruisseau du Cougniet, ça c'est à Salo, encore lui, j'ajouterai, qui coule au milieu du village de Salo, a pris des allures de torrent, déversant des eaux boueuses, noires, de stérile, dont le fameux stérile qui provient de la mine. C'est une véritable cascade qui jaillit par-dessus la route. L'angoisse va gagner la population, dont une partie a déjà quand même vécu une situation similaire quelques années avant, en 1977. Hein. Alors on comprend aussi que sur les hauteurs, le vent qui souffle en tempête a occasionné des dégâts sur des habitations, notamment à la station de Guzenège aussi, où des immeubles en construction vont être en partie ravagés, tout comme Campine Cavaranine. Entre Seix et Salo, très rapidement, la route est coupée à plusieurs endroits, suite à des éboulements ou à l'effondrement de la chaussée dans le Salat, entraînant forcément les poteaux électriques, télégraphiques, plus de communication possible, si ce n'est par radio. Et entre les bureaux, surtout de la mine du tungstène d'Anglade, donc, et puis les autorités, gendarmerie ou autres. Et alors, les petits ponts, passerelles vont être rapidement emportés. Et c'est à pied qu'une patrouille de quelques hommes de la brigade d'Oust, donc qui a été en alerte, va pouvoir rejoindre le village de Salo, complètement isolé, après des heures de marche. Entre-temps, deux chalets habités par des cadres de la mine se sont effondrés. Un troisième est sérieusement endommagé et cela menace également. La passerelle qui donnait accès à l'église et à l'école est en partie détruite. Heureusement quand même, les habitants avaient eu le temps de se sauver. Quelque temps plus tard, la montée constante des eaux va noyer totalement ce secteur et le préau de l'école va finir par s'effondrer. Et c'est pour vous dire l'enchaînement quand même des événements. Mais heureusement, tous les autres chalets, parce qu'il y en avait encore 3 ou 4, et les immeubles, soit en gros plus de 150 personnes, avaient pu se réfugier à la maison des jeunes. Une quarantaine d'autres habitants s'étaient rassemblés dans 2 maisons du haut du village, qui vont aussi être privées d'électricité. La nuit commence à tomber, l'angoisse gagne l'ensemble de la population, donc qui se voit complètement isolée. Et on se fait des signaux avec des lampes d'éclairage à pile, bien entendu. Suite à l'effondrement de la passerelle de la rive gauche est isolée, on s'assure bien sûr qu'il n'y a plus personne du côté de cette berge. Donc après le préau de l'école, c'est le chevet de l'église, la nef donc, qui va s'effondrer vers 2h30 du matin dans un bref vacarme. Et alors il ne faut pas oublier qu'il fait noir. Hein, donc on entend tous ces bruits, on peut dire que c'est l'apocalypse. La nuit sera très longue. Malgré l'accalmie, vers 4h30 du matin, le niveau du Cougniet commence à légèrement baisser, le Salat aussi. Et lentement, mais très lentement, les habitants donc constatent une légère décrue. Et ce ne sera qu'en fin d'après-midi, et donc de ce dimanche, qu'un hélicoptère de la protection civile va effectuer une première rotation apportant les premières denrées, c'est-à-dire de l'eau, du pain, des pâtes, un peu de lait également. Ce sera donc suite à d'autres rotations, la visite de quelques autorités, et pour se rendre compte, le préfet de l'Ariège, Monsieur le sous-préfet de Saint-Girons et également Jean Ibanès, donc, qui était député. Par la suite, il y aura une 20aine de rotations afin d'évacuer les personnes les plus vulnérables et surtout pour livrer aux populations sinistrées près de 2500 tonnes de denrées diverses, médicaments, matériel pour tenter de rétablir les lignes électriques et téléphoniques, l'eau également qui a été coupée, mais aussi également de l'essence et du gasoil. Pourquoi ? Pour alimenter les engins donc, qui appartenaient à la mine, donc bulldozers, pelles, camions, car ce sont eux qui vont faire les premiers déblayages. Heureusement quand même que sur place, il faut partir du principe que cet isolement a duré pratiquement une semaine, même peut-être plus. Et alors lui, le courrier, puisque quand même les gens avaient du courrier, sera lui aussi acheminé, mais par l'hélicoptère de la gendarmerie, alors que l'autre c'était la protection civile. Et donc pratiquement 8-10 jours, dont cela va durer. La situation, bien entendu, va s'améliorer, si on peut parler comme ça. Moi, personnellement, j'ai eu en main, à l'époque, de nombreuses photos qui témoignent de cette catastrophe. C'était une véritable désolation. Alors, c'est des photos de particuliers, de journalistes également, qu'on m'avait confiées. Heureusement, quand même, malgré tous ces dégâts, qu'on n'aura à déplorer aucune victime. Par contre, chez nos voisins andorrans, ce sera le drame, puisque je pense qu'on va déplorer 6 victimes. Et par contre, les dégâts dans tout le Haut-Couserans sont considérables, en plaine également, dans tous les domaines, entre la cour et Kerkabanak, au niveau des Trois Arches. 300-400 mètres de berge ont été, détériorés, une partie emportée également. Et tout cela va nécessiter d'ailleurs, dans les années qui vont venir, dans les années 85, 88, un arrochement important pour sécuriser donc cette route unique. C'est la seule route quand même qui relie la capitale du Couserans aux diverses vallées, que ce soit vers Massa, Tustou, Salo, Guzette. Et à ce sujet, d'ailleurs, ces travaux qui seront réalisés dans ces années-là, 85-88, auraient permis ce que ça, j'annonce, c'est ça, enfin, je le rappelle du moins, parce que pas beaucoup de gens s'en souviennent, hein, cela aurait permis cet enrochement, comme cela a été annoncé, je n'invente rien, hein, ça aurait permis d'élargir considérablement cette route à cet endroit-là, entre la Cour et surtout le Kerkavanak. C'était les instances départementales de l'époque qui avaient prévu de créer un créneau de dépassement sécurisé sur ce tronçon de 6 km, particulièrement accidentogène, je dis également particulièrement meurtrier. Je vous rappelle quand même, moi j'avais fait des pointages il y a déjà 15, 20, 30 ans, j'avais dénombré entre 34 et 39 tués et plus d'une centaine d'accidents divers. Et tout cela en 90 ans. Cherchez l'erreur. Alors, les aménagements d'envergure annoncés et promis il y a plus de 40 ans, comme je dis aujourd'hui, c'est encore une autre histoire. Mais c'est bon de le rappeler. Et alors, j'en arrive au Saint-Gironnais, autour du Saint-Gironnais, où j'avais relevé donc des titres également de journaux, où on mettait Saint-Giron sous les eaux. Car le Salat furieux aussi va donner des frissons aux riverains, de nombreuses routes qui sont submergées, également des riverains du Salat en vide, au niveau de Palétès, en dessous donc de nos studios, également toute la chaussée a été inondée, impraticable, du côté des anciens abattoirs, de la station d'épuration, avant d'arriver à Saint-Lizier également, en vide. Les eaux ont envahi jusque le bas du Champ de Mars, la place des Capots. Les véhicules sont en partie ensevelis sous 80 cm d'eau. Le quai du Gravier également, et dans la nuit du samedi au dimanche. Et là, il y avait un pic où l'eau, comme je l'avais déjà dit, donc, passait par moments par-dessus les tabliers donc, des ponts, donc, du pont Vieux, et également du pont Neuf. Et donc, exactement la même situation qu'on avait vécue en 1977. Et c'est vrai qu'au pic de la crue, il y avait quand même une certaine angoisse qui régnait parmi les autorités et organismes de sécurité, et qui étaient en charge quand même de gérer cet événement. Et on avait même encore envisagé au pire de faire sauter une partie du pont Vieux et pour dégager la pile du milieu donc, qui était encombrée de gros arbres donc, et qui faisait marrage pour pouvoir faciliter donc, la circulation de l'eau. Alors forcément, ces deux ponts étaient interdits. Hein. Alors finalement, la ville était pratiquement coupée en deux. Et seul le pont de fer Eiffel, hein, construit par Eiffel, je le rappelle, qui était encore en service, permettait de traverser le Salat donc, pour partir d'une rive à l'autre. Heureusement quand même que dans la nuit du dimanche au lundi, la décrue va commencer lentement. Le lundi matin, partout dans la ville, les habitants ont constaté les dégâts. Par endroits, c'était une véritable désolation. Et deux, trois jours après, commençaient les nettoyages. Il fallait trier, jeter, triste bilan, hein, dans partout, les magasins, les chambres froides, les stocks, tout ça. L'eau avait envahi également de très nombreuses caves, un peu partout. Moi, je me souviens qu'à l'hôtel Échienne, pourtant loin du Salat, vous voyez, les bouteilles flottaient dans 40 cm d'eau, dans la cave. Non loin donc, de l'hôtel Échienne, c'était chez moi, sur les boulevards Ferry-Carnot également. Mon magasin était sous la cave et se immergeait dans 80 cm d'eau, celle du café à côté également. Et il y avait tous les compresseurs des chambres froides dans les caves. Et on imagine un peu tous les dégâts, donc, puisque tout baignait donc, dans cette eau boueuse. Hein, c'était quand même pour nous autres du jamais vu, puisqu'on n'a pas vécu, moi personnellement, l'année 1937. Et c'était pire qu'en 1977. Et alors, voilà un peu en résumé ces périodes d'intempéries. Qui vont vous faire d'autant en plus apprécier les beaux jours et le soleil qu'on a vécu quand même ces temps-ci, mais comme quoi le grand chambardement climatique qu'on annonce, est-ce que c'était le même, mais en fait il y a 50, 70, 80, 100 ans, et on peut dire que notre couserant a subi d'importants dégâts suite, donc est-ce que c'était le dérèglement climatique ou les caprices donnent de la météo et de la nature, je vous laisse analyser. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.